présentée par certains comme une victoire de Rabat dans la bataille culturelle qui l'oppose à Alger. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Elle s'est mise sur son 31 pour animer la matinale d'RFI. Je vous laisse en compagnie d'André Anne-Mellard.
Mais comme tous les jours, non ? Merci Vincent Dubranche. À tout à l'heure, 7h43. À Paris, prochain journal dans 20 minutes. À la une, le Canada qui vote aujourd'hui pour des élections législatives anticipées. Reportage de notre correspondante Nafi Alibert sur cette élection qui se tient, vous le savez, en toile de fond de tension avec le voisin américain depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. On en parle dans le journal de 8h. Avant ça, sur RFI. Dans 100 minutes, notre invité Afrique, Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Ensuite, notre chronique matière première et un extrait de votre grand reportage du jour sur RFI. Mais d'abord, l'infosport. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Programme chargé aujourd'hui, d'abord avec du cyclisme, grand départ aujourd'hui de la 20e édition du Tour du Bénin.
Plus de 80 coureurs vont s'élancer pour une semaine de compétition, 14 équipes, et pour les 11 équipes africaines, cette épreuve s'annonce très importante car il s'agit de la seule compétition d'Afrique de l'Ouest estampillée UCI, c'est-à-dire qui a le label de l'Union Cycliste Internationale, et c'est tout sauf anodin, Olivier Pron.
Tu vas faire maximum de bruit parce que nous allons accueillir maintenant le Bénin.
Les Béninois ambiancés chez eux à Parakou à la veille du départ de leur tour. Ils n'y ont encore jamais brillé, mais la compétition sur tout le continent est cochée dans le calendrier par tous les coureurs de la sous-région et d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et récemment le Burkina Faso ont perdu le précieux label UCI quand le Bénin, lui, l'a acquis. Salami Avossetien, l'un des entraîneurs des guépards à vélo, est fier mais s'inquiète.
Oui, on doit être très très inquiet par rapport à ça parce que nous sommes à l'approche des championnats du monde au Rwanda et il nous faut quand même des points pour qualifier nos coureurs pour le championnat du monde. Donc si nous, on avait beaucoup de courses UCI en Afrique de l'Ouest, on pouvait gagner des points et facilement qualifier nos coureurs.
Des points précieux à gagner donc pour les coureurs, mais pour obtenir le sésame UCI, le calendrier des charges est féroce en termes d'organisation, de logement, de sécurité, de santé. Il a donc un coût, Emilien Ouetto, vice-président de la Fédération Togolaise.
Est-ce que c'est le cycliste qui va moins bien ? Non, je crois que les financements, les aides sont en regret. Dès que ça va vraiment recommencer, la volonté de toute la fédération, c'est d'intégrer l'UCI. Hein. Si quelqu'un n'y va pas, sûrement qu'il y a un petit problème. Mais nous, particulièrement, nous faisons l'effort. Souvent, c'est les conditions aussi qui dérangent un peu.
Des conditions que le Togo dit vouloir remplir d'ici un an. Olivier Pron, Parakou, RFI.
Et aujourd'hui, première étape de ce Tour du Bénin, 120 km au départ de Niki dans le nord du pays. Et puis toujours en vélo, mais sur les routes de Belgique, la formidable victoire hier de Kim Lecourt à Liège-Bastogne-Liège. À 29 ans, la Mauricienne devient la première africaine à remporter une grande classique du circuit mondial.
Direction la Côte d'Ivoire à présent pour une autre grande première en tennis.
Oui, à domicile, Eliakim Koulibaly a remporté hier son premier tournoi Challenger, celui d'Abidjan. C'est le deuxième niveau derrière l'ATP. Tour. Le numéro 1 ivoirien a battu en finale le numéro 1 africain, le Tunisien Aziz Dougaz, deux manches à une. Il grimpe de 54 places pour atterrir au 270e rang mondial. Et ce n'est qu'un début, selon Eliakim Koulibaly, évidemment très heureux.
C'est la première fois qu'on organise ce tournoi et c'est la première fois que je gagne mon premier titre challenger en plus chez moi. C'était un peu stressant, on a eu des problèmes avec la pluie et tout. J'ai perdu le premier set et après je suis rentré dans une zone. Quand je rentre dans cette zone, c'est vraiment difficile. J'entendais plus rien, j'entendais plus le public, j'étais vraiment focus sur moi-même. Finalement, ça a marché, donc je suis très 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 content. C'est le fruit d'un travail très acharné. C'est pas facile pour moi, je viens de très loin. Ceux qui me connaissent, qui connaissent mon histoire, savent que je viens de très loin. Mais moi, j'ai pas lâché. Comme j'ai dit depuis le début, j'ai continué de bosser et c'est le travail qui paye. L'objectif, il est pas atteint, faut continuer de bosser. L'objectif, c'est de jouer les qualifs de Grand Chelem. Il manque encore 40 places à franchir, donc il va falloir travailler dur, ne pas se reposer sur ses lauriers. Ça, c'est juste une étape qu'on vient de franchir. Il faut profiter de la victoire et switcher rapidement. Ça va très vite, il faut switcher rapidement, il faut mettre les choses en place pour la suite.
Eliakim Koulibaly avec Molamine Sissavané.
Un petit détour par les parquets, enfin celui de Dakar accueille la Basketball Africa League.
Deuxième journée de la conférence Sahara hier avec une première défaite de l'ASC Dakar battue par les Cap-Verdiens de Creole Star 66-63. Exploit de l'US Monastir contre le Petro de Luanda tenant du titre 87-73. Enfin aux États-Unis en NBA, plus qu'une victoire et les Pacers du Cameroun et Pascal Siakam rejoindront le deuxième tour des playoffs. Troisième victoire d'Indiana contre Milwaukee, Andréane, 129-103.
Merci Victor Missistrano, c'était l'actualité sportive sur RFI. Après le nord et le centre du Mali, l'ouest du pays est désormais sous la menace des djihadistes du Gini, mais plus précisément la zone des trois frontières du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. C'est le constat que fait le Timbuktu Institute dans un rapport qu'il publie aujourd'hui. Dans son enquête, l'Institut de recherche révèle aussi que ces djihadistes essaient de s'infiltrer dans l'est du Sénégal. Pour en parler, Bakary Sambe, directeur régional du Timbuktu Institute, est notre invité. Il est en ligne de Dakar avec Christophe Boisbouvier.
Bakary Sambe, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi dites-vous que les djihadistes du Jnim sont dans une stratégie d'encerclement de Bamako?
Oui, on le voit parce que le Jnim est dans une logique d'augmentation exponentielle des attaques violentes dans la région de Kaï, qui n'est pas n'importe quelle région, qui est la région qui relie Bamako au Sénégal avec les routes d'approvisionnement le reliant au port de Dakar, qui est crucial dans l'économie et dans l'approvisionnement de Bamako et du Mali de manière générale. Et le Jnim a multiplié par 7 ses actions violentes entre 2021 et 2024 dans la région de Kaï, en ciblant les forces de sécurité, en s'attaquant aux convois sur les axes routiers vers Bamako et aussi aujourd'hui des attaques qui se multiplient aux environs de Bamako, sans oublier ce qui s'est passé en 2022 avec l'attaque spectaculaire dans le quart de Kati.
Et bien sûr en septembre 2024, l'attaque sur l'aéroport de Bamako. Y a-t-il eu depuis le début de l'année des attaques ou des embuscades meurtrières contre l'armée malienne dans la région de Kaï, dans l'ouest du Mali?
Il y a eu beaucoup d'escarmouches, ça et là. Mais l'une des attaques les plus remarquées a été celle de Melgué, qui est à 35 km des frontières sénégalaises et de la ville de Bakel, le 8 février dernier, avec 3 morts, ce qui montre que le Jnim s'installe de plus en plus et, en plus du contrôle des axes routiers, essaye de désorganiser l'approvisionnement de Bamako, notamment dans des localités qui mènent sur cet axe de Kaï, comme Kaladiango, Moussafa et dans la forêt de Baoulé. Et le Jnim a revendiqué, comme vous le savez récemment, l'enlèvement du calife Tierno Adital en décembre 2024 à Nioro du Sahel, ce qui montre une volonté d'imposer aujourd'hui son autorité idéologique et de délégitimer non seulement les autorités politiques, mais aussi les chefs traditionnels.
Dans votre rapport, Bakary Sambe, vous vous intéressez aussi aux tentatives d'infiltration des djihadistes du Jnim dans l'est du Sénégal, notamment autour de Bakel, mais là, ils s'opposent aux chefs religieux et à leurs puissantes confréries. Est-ce que les djihadistes ne se heurtent pas dans ce cas à un mur religieux infranchissable?
Justement, dans cette région de l'est du Sénégal, le principal élément de résilience idéologique, à savoir la présence des confréries soufis, est moindre. La spécificité socio-religieuse de l'est du Sénégal est que les confréries soufis, comme la Tijaniya et la Mouridia, qui sont considérées comme le principal élément de résilience idéologique par rapport à l'extrémisme, ne sont pas assez présentes dans cette zone. Cette zone est dominée par la présence d'un islam salafiste, de plus en plus renforcé par des réseaux de la migration avec des populations qui sont parties en Europe et qui ont eu des contacts avec les milieux salafistes et qui construisent justement des mosquées salafistes pour contrecarrer l'islam traditionnel et délégitimer les chefs religieux locaux par rapport justement à leur position peu claire sur l'esclavage par ascendance dans la région de Bakel précisément.
Et est-ce qu'au Sénégal, les djihadistes du Jnim essayent de jouer les castes dites inférieures contre les castes dites supérieures?
Il est clair que le Jnim, à travers cette révolte de certaines castes dites inférieures, il est clair que les éléments du Jnim pourraient s'appuyer sur cet élément-là pour se présenter comme des protecteurs des communautés, mais aussi comme une forme de théologie de libération basée sur le salafisme, contrairement à l'islam traditionnel qui n'a pas été assez incisif dans sa condamnation du système de caste et de l'esclavage par ascendance.
Alors vous rappelez cette petite phrase du Premier ministre Ousmane Sonko, c'était lors de la campagne des législatives en novembre dernier. Il disait, vous connaissez la situation dans la sous-région, aujourd'hui la priorité c'est l'Est du Sénégal. Quelle est à vos yeux la stratégie que doit adopter l'État sénégalais pour faire face à la menace djihadiste?
Je pense que l'État sénégalais devrait renforcer davantage la présence des forces de sécurité dans les régions frontalières en construisant davantage de bases autour de la rivière de Falémé.
La rivière qui fait frontière entre le Mali et le Sénégal.
La rivière qui fait frontière, mais aussi en parlant aux populations, parce qu'on se rend compte que les populations ne sont pas conscientes de la présence de la menace. Il faudrait aussi, naturellement, renforcer la coopération transfrontalière avec le Mali et la Mauritanie, qui est entamée avec les visites récentes des élites militaires sénégalaises intermaliennes. Mais aussi, je crois que le gouvernement ne doit pas oublier les campagnes de sensibilisation auprès des chefs communautaires, parce que justement, cette jeunesse sénégalaise qui développe une forme de résilience par rapport aux groupes extrémistes est toujours dans cette double quête, la quête de sens que pourraient remplir les confréries soufis, mais il y a la quête de chance qui pourrait être des opportunités économiques, le développement de l'entrepreneuriat et le développement des politiques favorisant l'emploi des jeunes.
Bakary Samb, merci.
Le directeur régional du Timbuktu Institute, il répondait à Christophe Beaubouvier. RFI Matin, votre chronique matière première avec aujourd'hui les conséquences de l'effondrement des prix du lithium. En l'occurrence, la pèse sur le développement d'un projet minier au Ghana. La société Atlantic Lithium qui opère dans ce pays d'Afrique de l'Ouest demande d'ailleurs des concessions fiscales aux autorités pour aller de l'avant. Bonjour Marie-Pierre Olfond.
Bonjour.
Tous les miniers, sans exception, souffrent des conditions actuelles du marché.
Et oui, les projets du monde entier sont concernés, comme l'opérateur australien présent au Ghana. Tous les investisseurs avaient tablé sur un boom de la demande en lithium pour alimenter la transition énergétique et accompagner le développement des véhicules électriques. Mais ils déchantent aujourd'hui, car depuis leur pic fin 2022, les prix ont chuté de plus de 80%. Ils ont atteint en avril un plus bas depuis 4 ans. Selon les projets, l'impact se ressent sur le calendrier de mise en production, sur la viabilité économique ou sur les recettes pour les mines déjà en activité.
Et est-ce que, Marie-Pierre, la reprise des ventes de véhicules électriques en Chine peut changer la donne ?
On a effectivement constaté une hausse de près de 40% des ventes de véhicules électriques en Chine en un an. Cela a joué sur la demande en lithium qui a augmenté de près de 30%. Mais l'offre minière a été supérieure aux besoins l'année dernière et cela ne devrait pas changer en 2025. Même si plusieurs mines en activité ont réduit leur capacité de production depuis 2023 pour tenter de redresser les cours.
Et ce contexte pourrait-il compromettre certains des projets lancés en Afrique ?
En théorie, oui. Les difficultés sont les mêmes partout pour les investisseurs. Plusieurs projets dans le monde ont été retardés ou annulés en 2024. L'année dernière, le chinois Ganfeng, qui développe la mine de Goulamina au Mali, avait annoncé sa volonté de revoir certains de ses investissements. Mais le lithium attire toujours. L'opérateur chinois Sejin Mining Group a annoncé en début d'année son intention de produire d'ici un an du lithium en République démocratique du Congo. L'engouement est toujours le même au Zimbabwe, également pays qui figure dans le top 5 des producteurs de lithium au niveau mondial. Le Zimbabwe n'a pas levé le pied l'année dernière, au contraire, ses capacités de production ont augmenté.
Merci Marie-Pierre Olfond. RFI, votre grand reportage du jour, 20 minutes dans l'Amérique de Donald Trump, de retour au pouvoir depuis 100 jours. Et pour le monde, c'est tout un équilibre qui s'en est retrouvé totalement chamboulé. Mercredi, RFI en journée spéciale sur ces 100 jours de présidence Trump. Mais en attendant, on s'intéresse toute la semaine aux conséquences de ce retour à la présidence. Et notamment en Afrique, avant de se rendre au Lesotho, royaume tourné en dérision par Donald Trump, direction l'Afrique du Sud, en pleine crise diplomatique avec Washington. Trump à la Maison-Blanche, impact particulier pour l'Afrique australe. C'est un grand reportage de Valentin Hugues. Tout de suite un extrait.
8 millions de dollars pour promouvoir les LGBTQI+, dans la nation africaine du Lesotho, dont personne n'a jamais entendu parler.
Les associations LGBT du pays disent n'avoir jamais reçu le moindre centime américain. En réalité, Trump fait référence à l'aide internationale américaine. Certains programmes de santé financés par l'USAID, donc par les Américains, accompagner les populations vulnérables dans leur parcours de soins, et la communauté LGBT fait partie de ces populations vulnérables. Nous avons retrouvé un ancien employé d'une petite clinique qui nous explique le rôle exact qu'il avait avant de perdre son emploi. Une mission auprès des plus démunis pour endiguer l'épidémie de VIH qui touche le Lesotho, où environ un adulte sur quatre est séropositif. Bien loin du raccourci de Trump qui n'y voyait que la promotion des communautés LGBTQIA+.
On accompagnait la communauté LGBT, les travailleuses du sexe ou encore les ouvriers du bâtiment qui sont aussi des populations à risque. Et nous avions une très bonne approche avec notre clinique mobile et nos infirmières. Quand on testait quelqu'un séropositif, on le mettait directement sous traitement. Voilà, et ici vous avez d'anciens bénéficiaires.
Chaque témoignage est si puissant qu'il impose le silence. Tout le monde écoute très attentivement avec beaucoup de bienveillance. particulièrement quand une jeune travailleuse du sexe prend la parole.
Je suis Limpo et ma vie est en danger. Je vois beaucoup de gens mourir, surtout nous, les travailleuses du sexe. Je vois des amies dormir parce qu'elles sont malades depuis que notre clinique a fermé. J'ai peur de mourir. Plus personne ne va s'occuper de moi. Aujourd'hui, tout a changé et les gens meurent.
Et après cette séquence pleine d'émotions, Léoma sourit timidement et s'approche de notre micro.
Vous voyez, quand Trump fait des blagues sur le Lesotho, il rit de la vie des gens. On ne peut pas parler comme ça d'un autre pays. Il veut nous imposer des droits de douane très élevés, 50%. Sa phrase, c'est « Make America Great Again ». Je crois qu'il ne sait même pas ce qui a fait la grandeur de l'Amérique. L'Amérique est grande parce qu'elle a été capable d'aider d'autres pays. Et quand il nous aide avec des fonds, ça nous pousse à coopérer. Personnellement, je ne vois pas l'Amérique redevenir grande avec Donald Trump.
Ce grand reportage à écouter en intégralité sur RFI aujourd'hui à 19h40 en universel et à retrouver sur notre application RFI Pure Radio et notre site. À partir d'aujourd'hui, pardon, vous propose toute une série de productions dédiées aux 100 premiers jours de Donald Trump à la tête des États-Unis aujourd'hui. 14 décrets emblématiques de Trump à la loupe. Ça se passe sur le www.rfi.fr. Vous restez avec nous dans une minute, le retour de l'information, le journal de Grégoire Morelli.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Jamais le Bénin n'avait connu d'attaque terroriste aussi meurtrière. 54 militaires tués dans le nord du pays. Tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces criminels, affirme le gouvernement. Quelle doit être la riposte? Comment relancer la coopération avec les pays voisins? On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Ce lundi sur RFI.
Pourquoi l'inutile fait le charme du corps humain?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
À quoi servent les dents de sagesse ou l'appendice? Pourquoi certains ont une paire de côtes, une vertèbre ou un muscle supplémentaire? Comment les organes mal fichus, superflus, voire inutiles racontent l'histoire de l'évolution dans notre corps humain?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.